Je vais vous essayer d'expliquer comment on peut aujourd'hui former la première liaison carbone-carbone. Et tout ça, pas dans l'atmosphère de notre Terre, mais dans l'univers. On pense que nous sommes capables de réaliser dans le laboratoire cette récréation d'une liaison carbone-carbone, carbone-azote. On va vous présenter comment la première molécule organique va se former. Et pendant la deuxième partie de ma présentation, je vais vous amener avec la sonde Rosetta et son atterrisseur Philae sur la surface du comète 67P, Churyumov-Gerasimenko, où nous avons essayé de vérifier les résultats que nous avons obtenus au laboratoire. Donc nous pensons que la première molécule organique, la première liaison carbone-carbone se forme dans l'univers avant la formation de comètes, du noyau cométaire. Ici, vous avez la comète Hale-Bopp. Et vous voyez, il y a deux queues. Ça, c'est queue type numéro 1. Ça, c'est la queue type numéro 2. Dans cette queue ici, qui est notre queue ionique, la queue plasma, nous avons cette couleur bleue qui vient de cations de monoxyde de carbone. Ce sont les ions de CO+. Donc là, vous voyez la ligne d'émission en bleu du CO+. Donc le carbone du CO+ ne vient pas du vent solaire. Le soleil se trouve ici. Le carbone de ces ions CO+ vient dans le noyau du noyau cométaire qui se trouve ici. Donc ça, c'est une indication déjà que dans le noyau cométaire, il y a beaucoup de carbone. Dans notre laboratoire, avec nos activités de recherche, on utilise un modèle du professeur Greenberg qui dit que dans le milieu interstellaire, vous avez le grain interstellaire, IDPs, et ces grains sont couverts par quelques molécules qui sont volatiles, qui se trouvent en phase gaz, qui sont très bien connues, comme ici le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, l'eau et le méthanol. Tout ça, c'est très bien connu par la radioastronomie, par l'astronomie infrarouge. Ces molécules, ils vont se condenser sur la surface de cet IDP. Ils vont être irradiés pendant cette condensation. Ils vont être formés par les réactions radicalaires, photochimiques, quelques liaisons carbone-carbone. Ce processus, nous avons simulé dans notre laboratoire. Ici, vous avez cette chambre avec un vide, avec un spectromètre infrarouge, ainsi de suite. Et ici, vous avez une ligne de déposit de quelques molécules, comme de l'eau, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac et du méthanol. Attention, toutes ces molécules-là, qui en condensent, ne contiennent ni de liaison carbone-carbone, ni de liaison carbone-azote. On parle des unités C1 et N1. Donc, ces unités C1 et N1, elles sont condensées. Et pendant la condensation, elles sont irradiées dans cet exemple ici, avec la lumière ultraviolet à 10,20 électronvolts comme énergie. Après 24 heures d'irradiation et de la formation de la glace, on parle ici de la glace cométaire simulée dans le laboratoire, après 24 heures de ce processus-là, on trouve, et ça c'était déjà publié dans l'année 2002, on trouve 16 acides aminés différents. Les acides aminés comme alanine, deuxième enantiomère, glycine, l'acide aminobutyrique, valine, proline, acide aspartique, l'azérine, et ici une autre famille des acides aminés. Pour vous qui sont intéressés à la chimie organique, là, je cachais un petit acide aminé qui vous donne le signal le plus petit et l'acide aminé qui sort le plus en premier temps, là, après, je ne sais pas, 4 minutes déjà. Est-ce que vous savez par hasard comment cet acide aminé s'appelle? Sauf Ludovic, il le sait. Vous le savez? SAR, c'est bien sûr notre sarcosine, cet acide aminé ici. Premier signal, tout petit là. Donc, après, vous avez une autre famille des acides diaminés. Cet article-là a fait beaucoup de réactions dans le média. Par exemple, dans Le Monde, un article de briques vivant dans un cosmos artificiel. Après cette expérience, nous avons adapté notre technique d'analyse qui était dans notre exemple que je viens de vous présenter, un chromatographe en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse. Et ici, vous voyez que nous sommes actuellement équipés avec un appareil qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse multidimensionnelle. Donc ça, c'est un chromatographe en phase gaz. Ici, un autre chromatographe en phase gaz de notre glace cométaire simulée dans le laboratoire. Et je vous présente juste une fenêtre dans ce chromatogramme en 3D. Et entre 54 minutes et 62 minutes, vous voyez beaucoup de signaux. Tous les signaux correspondent aux acides aminés. Et là, vous voyez, par exemple, aminoéthylglycine et un autre acide aminé qui s'appelle 2,4-diaminobutyrique, l'acide diaminobutyrique. Donc tout ça, on considère très important dans le contexte de l'origine de la vie sur Terre, parce que à droite, ici, vous voyez la représentation structurelle de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique, et en bas, vous voyez une protéine, la structure d'une protéine. C'était Walter Gilbert, prix Nobel de l'Université de Harvard, qui a publié dans Nature, en 1986, que c'était l'ARN, cette molécule ici, qui avait précédé dans l'évolution chimique et biologique, l'ADN et les protéines. Mais Walter Gilbert, il a également dit que cette structure de l'ARN, c'était jamais la première molécule génétique sur Terre. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes de recherche qui travaillent sur la question quelle était la première molécule génétique sur Terre. Il y a plusieurs candidats. Ici, vous en avez, je vous avais présenté deux candidats. Ces candidats-là, ça s'appelle un PNA, un acide peptidique nucléique, donc avec des liaisons peptidiques. Et là-dedans, vous avez le AEG, aminoéthylglycine, indiqué en rouge. Et ici à gauche, vous avez un autre acide aminé peptidique, PNA, qui trouve ici l'acide 2,4-diaminobutanoïque. Et vous vous souvenez, dans le diapo précédent, ce sont exactement ces deux acides diaminés que nous avons trouvés dans notre comète artificielle simulée dans ce laboratoire. Donc là, on vous présente une moyenne comment on peut considérer l'évolution chimique a fonctionné sur Terre. Plus récemment, nous avons également identifié le ribose dans cette lasse interstellaire. Et ce qui est très joli dans cette identification de la ribose dans notre glace cométaire simulée dans le laboratoire, qui est 3,5% de cette lasse, font partie des aldopentoses et de molécules qui sont liées au sucre. Donc ce n'est pas une identification en ultra-trace qu'ils nous ont fait avec notre technique, la chromatographie multidimensionnelle. Nous avons détecté de grandes quantités de aldopentoses et de ribose là-dedans. Donc nous avons trouvé pas seulement le ribose, mais également les aldopentoses sœurs de notre ribose, qui s'appellent arabinose, xylose, luxose, etc. Donc on ne s'intéresse pas seulement à l'identification de ces molécules organiques dans notre comète artificielle, on s'intéresse particulièrement à leur chiralité. Donc les acides aminés, la majorité des acides aminés et les aldopentoses sont chiraux. Et en conséquence, on utilise aujourd'hui ce synchrotron soleil sur le plateau de Saclay pour essayer de créer avec les ingrédients C1 et N1 qui sont ici, qui vont condenser sur cette fenêtre ici, ils sont irradiés avec maintenant la lumière circulairement polarisée, et là on utilise le rayonnement synchrotron, pour transférer la chiralité de la lumière vers ces acides aminés qui vont se former dans les conditions simulées pour la formation de comètes. Donc à droite, vous avez un échantillon qui est irradié, on forme 16 acides aminés, et ce premier signal correspond à l'alanine, l'acide aminé alanine en configuration L, et ça c'était irradié avec la lumière linéaire polarisée à gauche. Là c'était irradié avec la lumière non polarisée, et en bas nous avons irradié avec la lumière circulairement polarisée à droite, qui nous donne un excès de l'énantiomère inverse de notre alanine. Et cet exemple, c'est pas seulement valide pour l'alanine, ça vous pouvez maintenant utiliser pour tous les 16 acides aminés qu'on trouve là-dedans et les aldopentoses inclus. Donc ça, c'était la première présentation, la première partie de ma présentation. Deuxième partie, c'est la sonde Rosetta. Donc nous sommes impliqués dans cette sonde Rosetta. Ici, vous avez le véhicule spatial avec cette payload support module qui se trouve ici. Nous avons 10 appareils sur cet appareil ici. Et là, vous avez l'atterrisseur qui s'appelle Philae. La taille entre panneau solaire et deuxième panneau solaire, c'est 32 mètres de cette sonde ici. Cet moment de l'assemblage entre Philae et la sonde Rosetta, la taille, c'est 2 mètres fois 2 mètres fois 3 mètres. Ici, l'atterrisseur Philae. Là, vous avez des caméras. Ça c'est la caméra Osiris. Ça, c'est une autre caméra qui s'appelle Virtis. Toutes ces caméras sont sur le payload support module qui sont directionnées vers le noyau cométaire. Donc, en 2004, il y avait ce décollage de la sonde Rosetta. En 2014, après une mise en hibernation, il y avait en janvier le réveil, et ici vous avez le petit signal du réveil. Et là, la première photo prise par la caméra Osiris, ni une caméra Osiris, de notre comète ciblée sur Yomov-Gerasimenko. Là, vous voyez, il y a déjà une petite queue qui se développe. En juillet 2014, les premières images qui sont très, très fascinantes pour nous tous, notre comète ciblée sur Yomov-Gerasimenko. Vous pouvez bien imaginer que beaucoup de chercheurs qui ont été impliqués, ils ont été très fascinés par cette noyau cométaire. Surtout le chercheur qui a travaillé sur l'orbiteur Rosetta. Moi, je travaille sur l'atterrisseur. Donc chez nous, les gens, ils ont paniqué parce qu'on ne savait pas si le centre gravitationnel de cette noyau cométaire se trouve à l'intérieur du noyau cométaire ou éventuellement même à l'extérieur. Donc comment on peut calculer cette trajectoire pour filer et d'atterrir sur cette surface-là? Ce qui est important aussi à retenir, ce sont deux choses. Première chose, ces couleurs-là. Donc, la surface du noyau cométaire que vous voyez ici, c'est noir. Pour les images comme ça, on a beaucoup augmenté la luminosité pour que vous voyez quelque chose. Sinon, c'est noir, c'est un fond noir. Donc, c'est noir parce que le noyau cométaire contient beaucoup de molécules de carbone dans sa forme organique. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Deuxième chose très intéressante, la densité de ce noyau cométaire, c'est 0,4 grammes par centimètre cube. Donc c'est très léger, ça va flotter sur l'eau. Donc si on va parler sur des roches, par exemple, qui sont là-bas, ce ne sont pas des roches, la densité est 0,4. Oui. Donc ici, vous avez cette zone intermédiaire, il y a deux lobes du noyau cométaire, ça c'est le petit lobe, et vous avez le grand lobe. On peut s'approcher avec notre caméra sur la sonde Rosetta. Ici, une zone intermédiaire qui s'appelle API, là vous avez la zone Z, ici, cette grand lobe. Aussi Hator, cette falaise d'une altitude de 800 mètres. Et ça, c'est la zone qui se trouve ici, qui s'appelle Imhotep. Moi, j'adore cette zone Imhotep parce que, permettez-moi, pour une... Là, vous avez mon nom familial. J'ai toujours mis mon nom familial parce que c'est difficile à retenir, Maya Henrik. Ici, j'ai également donné mon prénom qui ouvre. Et ça, c'est parce qu'ici, vous voyez déjà le U, le W, et avec un peu d'imagination, vous avez aussi le E qui est là sur le noyau cométaire. Une autre image de caméra SIVA de notre sonde Rosetta avec le panneau solaire. Et là, vous avez notre comète 67P. En janvier 2015, il y avait une première Special Issue of Science de Remote Science Data. Et après, il y avait cet atterrissage de Philae. Notre appareil, ça s'appelle COSAC. Ça, c'est un chromatographe en phase gaz, vous connaissez déjà, lié à un spectromètre de masse. Philae contenait deux harpoons pour fixer Philae sur la surface cométaire. Et ça, c'est deux images plus spectaculaires de ma vie, de ma carrière scientifique. Ça, c'était Philae après séparation de la sonde Rosetta. Et on était très contents que les trois jambes, ils ont été vraiment dépliées et tournées par 40 degrés. Ici, une séquence qui vous montre que Philae a tourné autour de l'axe Z pour stabiliser Philae, pour que le filet ne va pas tomber sur sa tête pendant l'atterrissage qui a duré quand même 7 heures. Donc ça, c'est une image du caméra Rollis sur Philae. Là, c'est un de trois pieds sur Philae. Caméra Rollis directionnée vers la comète, le noyau cométaire. Et ce noyau cométaire s'approche pendant cet atterrissage de l'atterrisseur Philae. La seconde image était prise par Rosetta, par la sonde Rosetta, la petite image par Philae, par Rollis. Donc ici, vous avez la petite image. Donc on sait exactement où on va, où Philae va atterrir. À Cologne, moi j'étais à Cologne dans le centre de contrôle de la DLR, on a servi du champagne, tout le monde était très heureux. Au Cité des Sciences à Paris, il y avait François Hollande qui a suivi, qui était porté par ses émotions, qui a pris le microphone et qui avait dit « Ah oui, la sonde Rosetta, c'est une des meilleures missions européennes et ça c'est une mission qui se laisse seulement réaliser dans une collaboration internationale, c'est pas un pays en Europe qui peut faire ça toute seule, on a besoin de l'Europe, on a besoin d'une collaboration scientifique en Europe ». Tout le monde était très ravi et nous avons à ce moment-là vu cette image-là. Donc on avait prévu d'avoir maintenant avec cette caméra SIVA qui était construite à Paris, cette caméra SIVA d'avoir une image panoramique du noyau cométaire 360 degrés en stéréo et on a vu ça. Nous avons le site d'atterrissage avant et après, la différence c'est ça, vous voyez le trou qui vient de trois pieds, mais ce qui nous manque c'est l'atterrisseur Philae. Donc Philae pendant 2 heures est rebondi dans l'espace sur une altitude de 800 mètres et un deuxième atterrissage après 2 km. Cette saute a duré 2 heures, il y avait plusieurs sautes, en total 4 atterrissages. Et notre séance, parce que Philae se trouve la sonde se trouve à 30 minutes de communication de la Terre. Il y avait une programmation automatisée pour une first science sequence, pour la première séquence scientifique. Donc après 20 minutes d'atterrissage, on se dit, oui, on va allumer notre appareil. Parce qu'après 20 minutes, vous avez probablement en phase gaz quelques molécules qu'on peut inhaler avec notre appareil COSAC dans le mode spectrométrie de masse. Donc ça, c'est notre appareil COSAC, colonne chromatographique, et ici, le temps de vol, spectre de masse. Une autre image, le GC et le spectre de masse. Je vous montre ça parce qu'entre le GC et le MS, il y a quelques tubes qui sont ici. Ce sont le venting, ce sont le tube avec un diamètre intérieur de 2 cm pour exhaler le gaz porteur de notre système chromatographique qui est le hélium. Donc on ne veut pas avoir le hélium dans notre spectromètre de masse. Donc ils ont utilisé comme sortie, si vous voulez. Mais on a utilisé ça 20 minutes après atterrissage pour inhaler quelques molécules cométaires. On ne savait pas qu'on se trouve à une altitude de 500 mètres au-dessus du noyau cométaire. Et à ce moment-là, 20 minutes après le rebondissement, on a inhalé ces molécules-là et on a enregistré ce spectre-là. Cet spectre était enregistré 2 jours après et cet spectre était enregistré avant. Dans le spectre avant, vous voyez bien à 18 M sur Z, c'est l'eau, à 28, c'est monoxyde de carbone, à 44, c'est le dioxyde de carbone. Ça, on voit toujours, même après 10 ans dans l'espace, notre sonde, notre appareil peut toujours détecter ces 3 molécules-là. Par contre, ici, directement 20 minutes après l'atterrissage de Phyla et le rebondissement, on a cette multitude de signaux. Ici, vous voyez en orange en noir, le spectre que nous avons enregistré 20 minutes après l'atterrissage, et en orange, une fuite que nous avons reconstituée. Donc, et pour la reconstruction de cette fuite-là, on a utilisé 16 molécules organiques. Et ces 16 molécules, ça c'était notre découverte Rosetta Philae de l'appareil COSAC. C'était publié l'année précédente dans Science. Après Philae, après atterrissage, donc après atterrissage final, on voyait cette image ici via l'orbiteur qui est utilisé comme relais vers la Terre. Cette image était faite par des artistes. Maintenant, ça c'est également devenu une issue spéciale dans Science. Et aujourd'hui, on a vu que cette petite atterrisseur Philae se trouve là-bas. Et les artistes qui ont fait cette image avec l'aide des chercheurs, c'était pas mal ce que nous avons pensé sur la situation de Philae. Donc après atterrissage final, Philae a opéré pendant 60 heures. Et pendant ces 60 heures, nous avons enregistré 427 spectres de masse de notre appareil. Le spectre de masse, 427 spectres de masse, ils ont été transmis vers la Terre juste quelques minutes avant que Philae, le pile de batterie, se sont devenus vides. Donc actuellement, on travaille encore sur le 420 spectres de masse qui nous ont pas encore publié. Si vous êtes intéressé à tout ça, j'ai rédigé 2 livres, un sur la chiralité, le deuxième sur le comète. Merci à tous ces partenaires et plein d'autres gens, et merci à vous pour votre attention.
Merci. Je n'osais pas t'arrêter parce que c'est quand même des images assez impressionnantes. Peut-être le temps pour une ou deux questions, oui ?
Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur les expériences de laboratoire et d'irradiation. Donc on voit que différents composés, acides aminés, etc. arrivent très vite. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on continue ? Parce que les échelles de temps cosmiques sont évidemment complètement différentes. Est-ce que ça atteint un niveau, disons, de composition permanent qui continue ? Ou bien est-ce que d'autres phénomènes pourraient en détruire ? En d'autres termes, est-ce que la composition qu'on obtient au bout de quelques minutes ou d'une heure ou 2 heures, si on la prolonge pendant, je ne sais pas, 1 mois, est-ce que ça va donner les mêmes résultats ? Ou est-ce qu'il va y avoir des changements de composition ?
Oui, c'est le même résultat pour le résultat de ribose que j'avais présenté. Nous avons irradié pendant 1 semaine. Donc, ce qu'on pense qu'on va arriver, on est sur la température de 12 Kelvin, proche du zéro. Les molécules de C1 et de N1, des unités C1 et de N1 vont condenser. Ils vont voir des photons. Le photon crée des radicaux. Les radicaux sont dans la glace. Le rapport entre photons et molécules est 1 sur 10. Donc, il n'y a pas toutes les molécules qui sont des radicaux. Vous avez un radical entouré par plein de molécules, 10 molécules par exemple. Donc, si vous augmentez la température jusqu'au 30 Kelvin, c'est ça qu'on pense aujourd'hui par la spectroscopie in situ, si vous augmentez la température jusqu'au 30 Kelvin, les radicaux semblent avoir ou de recevoir leur environnement et une réaction entre radical va se faire avec une molécule parce qu'ils sont englobés de molécules. Donc vous créez une unité, par exemple C2, qui est encore une radicale, qui va avoir des autres voisins aussi. Et ça, c'est un mécanisme qui nous explique comment les molécules vont se former. Bien sûr, vous avez aussi des photons qui rentrent et qui vont casser quelques liaisons. Mais notre glace va grandir et à l'intérieur de cette glace, les molécules qui se sont formées sont quand même protégées par des photons qui rentrent.
Oui ?
Oui, je voudrais savoir qu'il s'agisse de l'expérience du début ou qu'il s'agisse de... des échantillons récoltés, jusqu'à combien d'acides aminés attachés les uns aux autres, jusqu'à combien vous allez vous trouver en fait ?
En 2002, on a trouvé 16 acides aminés, ce sont eux que j'avais présentés. Mais... aujourd'hui, on trouve 30 acides aminés différents avec la chromatographie multidimensionnelle. Et dans cette même glace, on trouve les aldopentoses avec du ribose.
Pardon, je me suis mal exprimé. Attachés entre eux, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de polypeptides ? Jusqu'à combien on peut trouver d'acides aminés attachés les uns aux autres ?
Ah.
Polymérisé. Enfin, le mot est peut-être pas. Vous trouvez des dipeptides, des tripeptides.
Je pense pas que je vais former de peptides à l'intérieur de cette glace.
D'accord. Il y a pas plusieurs acides aminés attachés les uns aux autres. Non. J'ai cru en voir là, mais.
Je n'ai pas vu, par exemple, le diglycine. Non.
D'accord. Donc c'est deux alors. Ok.
Merci. Allez, une dernière question et. On passera à l'exposé suivant.
Merci beaucoup pour cette présentation fascinante. Alors, bon, évidemment, en tant qu'anthropologue, j'ai des remarques sur la dimension humaine de cette aventure. Je pense qu'il est important de se souvenir que la vie n'est pas simplement un phénomène à percevoir. Il n'y a pas simplement des signes de vie qu'on détecterait. Les êtres vivants sont aussi des êtres qui perçoivent. Et Anna Perroche l'a bien expliqué ce matin, c'est que les humains ont la capacité de percevoir la vie de différentes façons. Et là, ce que je trouve fascinant, c'est que ça met bien en exergue le fait que les humains, dans leur rapport au vivant, n'ont pas un rapport immédiat, mais c'est un rapport qui est toujours articulé par des technologies, des techniques plus ou moins modernes, plus ou moins archaïques. Et parmi ces techniques, je trouve qu'il est assez intéressant de voir que il y a une sorte de continuité entre une technique du corps que vous avez mimée en mimant la respiration et le fait que le robot a respiré à distance pour nous ces traces de vie. Donc je pense que c'est un point important d'avoir à l'esprit qu'on n'a jamais accès à une conception pure de ce qu'est la vie ou à une définition pure, mais toujours à un rapport médiatisé et a fortiori quand on est à des milliers de kilomètres. Merci encore.
Merci. Nous allons entamer le dernier exposé.